Théologie biblique, Père Philippe, 16 décembre 1983, Saint-Joseph.
Nous étions arrivés à ce passage particulièrement important dans le chapitre 21 de la Genèse, de la séparation que Dieu fait en se servant de la mauvaise humeur de Sarah. Alors ça pose quelques petits problèmes, mais c'est intéressant de voir cela. Cette séparation entre les deux descendants d'Abraham, Ismaël et Isaac. Alors je relis, si vous voulez, pour que nous comprenions mieux ce que nous avions commencé déjà la dernière fois. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où on sevra Isaac. On voit très bien le sevrage, hein, qui prend une telle importance au niveau psychologique aujourd'hui et qu'on voit ici célébré dans cette fête particulière pour Isaac. Et on comprend comment c'est cette fête, parce que c'est l'autonomie du fils, hein. C'est le fils qui commence tous les moments de l'autonomie, au fond de la personne humaine, qui acquiert son autonomie, qui acquiert sa possibilité de s'orienter. Sarah vit le fils que l'Égyptienne Agar avait enfanté à Abraham, en train de jouer avec Isaac, son fils. C'était sans doute pas la première fois, mais vous comprenez qu'avec le sevrage, l'enfant échappe un peu plus à sa mère, hein, faut pas l'oublier. Alors, c'est une fête pour Isaac, je crois que Sarah devait pleurer. Ben, ne peut pas trouver ça très drôle, étant donné qu'elle est quand même très mère captative, hein, sûrement. Et alors on voit très bien la manière dont elle se rattrape. Tout à fait ça, c'est très significatif. L'enfant va se séparer un peu plus et on va voir immédiatement la mainmise dessus. C'est très dangereux, il est sevré, il échappe un peu plus à sa mère. Il tombe par le fait même beaucoup plus proche de son frère, de son demi-frère. Et pour Sarah, pas frère du tout. Ça, c'est net. Mais son demi-frère, objectivement, dans la perspective d'Abraham et dans la perspective de Dieu. Alors, il va jouer. C'est dangereux. Agar avait enfanté Abraham en train de... Sarah vit le fils que l'Égyptienne Agar avait enfanté Abraham en train de jouer avec Isaac, son fils. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas hériter avec mon fils, avec Isaac. » Sevrage, héritage, hein, c'est très intéressant à noter. L'héritage, c'est justement ce qui arrivera après. C'est l'héritage d'Abraham, c'est bien évident. Le sevrage, c'est la séparation à l'égard de sa mère, son autonomie. Et son autonomie sera parfaite au moment de son héritage. Voilà, à ce moment-là, vraiment, il sera parfaitement ce qu'il doit être et l'orientation qu'il prendra. La chose déplut beaucoup à Abraham à cause de son fils. Sarah fait souffrir Abraham dans son regard sur Ismaël. Elle ne veut pas comprendre qu'il est le fils d'Abraham. Je vous l'avais dit la dernière fois, à un moment de très grande générosité, elle avait laissé passer la servante devant. C'est difficile de se maintenir dans un héroïsme. Et cet héroïsme avait un sens à un moment donné, et cet héroïsme, subitement, n'a plus de sens. C'est aussi très significatif, ça. On est héroïque quand il y a une signification. On peut être héroïque à ce moment-là. Et Sarah a été héroïque, il faut le reconnaître. Elle a laissé sa servante passer devant pour qu'il y ait un fils à Abraham. Cet héroïsme ne dure pas. Pourquoi ? Parce que pour elle, dans son jugement, il n'a plus besoin d'exister. Dieu a regardé Sarah et lui a enlevé son opprobre. Et maintenant, il y a un fils et il est sevré. Donc il a son autonomie, il commence à être vraiment le fils d'Abraham. Donc il n'a plus besoin de l'autre. Il faut l'éliminer. C'est à la fois très humain, c'est ça qui est très, très, très curieux et important à saisir. C'est très humain parce que c'est très difficile de maintenir l'héroïsme quand il nous semble que la raison n'existe plus. Saisir des exemples dans notre vie comme ça. On a été héroïque à un moment donné, ça nous a semblé vraiment ce qu'on devait faire, puis après, le motif semble disparaître. Alors on ne voit plus. Alors, c'est beaucoup plus difficile de maintenir la fidélité. Hein. Ce qui est comme ici une question de fidélité. Un héroïsme qui dure, c'est une fidélité qui doit durer. Mais Dieu dit à Abraham, n'aie pas de déplaisir pour le garçon et pour ta servante. En tout ce que te dira Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac que tu auras une descendance de ton nom. Quant au fils de la servante, de lui aussi je ferai une grande nation, car il est ta descendance. Alors là, c'est très net, hein. C'est pour nous faire comprendre la différence du regard de Dieu et le regard de Sarah. Le regard de Sarah qui ne voit que ce qui lui appartient, ce qui est d'elle et ce qui provient d'elle. Elle ne peut pas avoir un regard suffisamment universel. Et le regard de Dieu, au contraire, qui regarde parfaitement tout le bien d'Abraham. C'est déjà l'universalité qu'il a souligné. Enfin, au moment où il y a ce caractère particulier du peuple d'Israël qui commence avec Isaac, le garçon n'est pas de déplaisir pour le garçon et pour ta servante. En tout ce que te dira Sarah, écoute-la. Très curieux. On ne dit pas corrige-la. Écoute-la. Car c'est par Isaac que tu auras une descendance de ton nom. Donc Dieu reconnaît qu'il y a quelque chose de juste dans la réclamation de Sarah. Il dit à Abraham d'écouter Sarah. Et en même temps, Dieu montre le dépassement de son regard sur le regard de Sarah. Puisque Dieu regarde la descendance d'Abraham et non pas en premier lieu la servante. Vous savez, si on regardait un peu plus profondément, ce serait très intéressant, ça. C'est ces moments-là qui sont particulièrement intéressants dans la Bible, surtout dans la Genèse. Parce qu'il y a, au-delà du point de vue moral, il y a un point de vue de regard divin. Nous, souvent, le point de vue moral nous empêche quelquefois de voir plus profondément. Je crois qu'ici, on pourrait dire, voyez, qu'on est en présence d'un regard complètement limité à un conditionnement. Et puis, un regard qui regarde la finalité, le regard de Dieu, un regard de sagesse. Alors qui regarde la descendance d'Abraham, la double descendance d'Abraham, selon deux modalités différentes. Mais des deux côtés, c'est la descendance d'Abraham. Et c'est souligné que c'est vraiment la descendance d'Abraham que Dieu regarde et que Dieu bénit. Parce qu'il a béni Abraham. S'il a béni Abraham, il a béni toute sa descendance. Aussi bien celle de droite que de gauche. Hein? C'est bien évident. Il a béni toute sa descendance. Toute sa descendance est bénie. Et c'est dit, car aussi, il deviendra une grande nation, car il est ta descendance. Donc la fidélité de Dieu à l'égard de la descendance d'Abraham, parce qu'Abraham est béni. Fidélité dans cette bénédiction, dans cette finalité du regard de Dieu. Sarah, elle touche quelque chose de juste, mais on voit très bien les limitations de son regard. Parce qu'elle ne regarde plus en premier lieu la finalité, mais elle regarde la manière dont Isaac est venu au monde et la manière dont Ismaël est venu au monde. Les deux modalités. Vous voyez, ça c'est très très net. Notre regard n'est parfaitement divin que quand il atteint la finalité. La vraie fidélité. Et qu'il y a une fidélité dans la finalité. Quand nous regardons trop la manière d'exister, la manière d'être, la manière dont de faire les choses, alors à ce moment-là, nous retombons dans un particularisme humain. Et ce particularisme humain fait qu'il y a nécessairement le point de vue de la jalousie. Ça ne peut pas être autrement. Toute crise de jalousie, hein, parce que c'est intéressant à travers toute l'écriture, hein, c'est un grand thème de l'écriture. C'est un grand leitmotiv de l'écriture. La jalousie divise. Et d'habitude, Dieu n'est pas d'accord avec la jalousie. Hein. Vous voyez tout de suite le lieu que vous pourriez mettre en parallèle, c'est la jalousie dans Saint Jean, puisque c'est toujours Saint Jean qui veut nous éclairer, n'est-ce pas ? Dans Saint Jean, le grand passage de la jalousie des disciples de Jean-Baptiste à l'égard des disciples du Christ. Les disciples de Jean-Baptiste ne sont pas contents du tout que les disciples du Christ deviennent plus nombreux. Alors que le Christ a commencé après, 6 mois après. Ce n'est pas normal. Celui qui a commencé 6 mois après devrait toujours être un peu en retard. Eh bien non, les disciples de Jésus sont plus nombreux. Et les disciples de Jean-Baptiste alors sont furieux de ça. Et accusent Jean-Baptiste de ça. Parce que c'est Jean-Baptiste qui a rendu témoignage. Et alors on voit très bien à ce moment-là que Jean-Baptiste corrige ses disciples. Il n'y a pas une intervention directe de Dieu, mais Jean-Baptiste, sous le souffle de l'Esprit-Saint, corrige les disciples. Et corrige les disciples d'une manière extrêmement forte, j'allais dire théologale. Pour se corriger de la jalousie, il faut regarder la jalousie du Christ sur nous. Il n'y a que cela. Vous savez, la jalousie est une passion tellement forte. C'est terriblement fort, la jalousie. C'est très ancré en nous. Hein. Puis c'est pas commode parce que c'est une jalousie, c'est une passion souterraine. On avoue peu qu'on est jaloux. Déjà, quand on l'avoue, c'est déjà bien. Il y a déjà la moitié de gagner. Mais au fond, c'est une passion très souterraine. On n'aime pas parce que ça paraît toujours justement quelque chose qui nous rétrécit. On aime d'être magnanime. Moi, j'aime tout le monde. Très bien, c'est merveilleux. Je laisse passer tous les autres devant moi. C'est beau, c'est magnanime, ça. Tandis que la jalousie, c'est quelque chose d'étroit. C'est une étroitesse. C'est parce qu'on a un accaparement trop grand. On veut trop avoir. Quand on aime, on est dans une attitude extatique. Donc on se quitte pour aller vers celui qu'on aime. Et là, il ne peut pas y avoir de jalousie. La jalousie est un mouvement qui tue l'amour, hein. Parce que c'est ramener à nous et de vouloir toujours être premier. Quand on aime, on ne se soucie pas de savoir si on est premier ou dernier. On aime. Et l'amour est au-dessus d'être premier ou dernier. Quand on se soucie trop d'être premier toujours, c'est l'orgueil à l'intérieur de l'amour. Et cet orgueil à l'intérieur de l'amour, alors, suscite la jalousie. Puisque subitement, vous vous réveillez et vous voyez qu'un plus jeune a l'air de courir plus vite que vous, dans l'ordre de l'amour. Il va beaucoup plus vite. On est beaucoup plus attentif à lui. Alors à ce moment-là, il y a une crise terrible de jalousie. Parce que quand même, moi, il y a plus longtemps que je suis là. Je suis un vieux soldat. Tandis que lui, jeune, il passe devant. Alors, la crise. Alors, ce qui est très curieux ici, et c'est quand même très curieux, parce que c'est net qu'il y a une jalousie. Sarah, c'est pas la première fois. On commence à la connaître. Hein. La psychologie de Sarah, faire la psychanalyse de Sarah, c'est assez extraordinaire. C'est très extraordinaire, la psychologie de Sarah. Elle est très marquée. Très, très marquée. Ça n'a pas été commode dans sa vie. Sûrement, ça n'a pas été commode. Abraham ne devait pas être quelqu'un de commode parce qu'il avait une grande personnalité. Alors ça ne devait pas être commode du tout. Et Sarah, lorsqu'au moment où Abraham commence à recevoir la bénédiction de Dieu, où Abraham reçoit ce lien très particulier avec Dieu, Sarah n'a pas reçu la bénédiction en premier lieu. Ça ne m'étonnerait pas que déjà dès ce moment-là, il y ait quelque chose dans l'âme de Sarah qui n'est pas totalement accepté. Si Sarah avait accepté totalement la bénédiction de Dieu sur Abraham, Sarah aurait accepté jusqu'au bout Ismaël. Sarah n'a pas accepté entièrement. Ça, je crois qu'on peut le dire. Ce n'est pas expliqué, mais il faut expliquer sa jalousie. Et expliquer sa jalousie, il faut expliquer le moment où elle s'est repliée sur elle-même. Parce que toute jalousie, c'est un repli sur soi. Parce que c'est quelque chose qui arrête l'amour et qui empêche l'amour d'aller jusqu'au bout. Alors il y a un repliement sur elle. Et ce repliement sur elle l'empêche de pouvoir accepter Ismaël. Elle n'accepte que ce qui vient d'elle. Ce qui vient d'elle est seulement authentique. Ce qui ne vient pas d'elle, bien que ça vienne d'Abraham, ah non. Et donc, elle regarde plus ce qui vient d'elle que ce qui vient d'Abraham. Si elle regardait la bénédiction de Dieu sur Abraham, elle aurait accepté même ce qui ne vient pas d'elle. Parce qu'elle aurait reconnu qu'Abraham passe avant. C'est vieux la libération de la femme, c'est très très vieux, tu vois. Et là on peut le dire qu'on assiste à ça, c'est pas commode, je sais très bien que c'est pas commode du tout d'accepter cette bénédiction de Dieu qui est assez étonnante, hein, sur Abraham, et on la retrouve ici, et c'est pour ça que je crois que c'est ça, Dieu permet cette jalousie pour que nous comprenions mieux ce que c'est que la bénédiction de Dieu sur Abraham, aussi bien le fils de la servante que le fils de la femme libre. Les deux. Parce que Dieu bénit Isaac en premier lieu, Ismaël en second lieu. Et il bénit les deux. Et les deux sont bénis de Dieu. Abraham se leva de grand matin, prit du pain et une outre d'eau et les donna à Agar. Il est bien évident que Sarah ne se lève pas de grand matin. Mais bon, parce qu'elle lui a dit. Sais-tu, j'espère, quand Abraham se leva de grand matin, prit du pain et une outre d'eau et les donna à Agar. Alors toujours le pain, dans votre fiche sur le pain, à travers toute l'écriture, notez ici le pain qu'on donne au petit enfant qui doit partir. Et c'est le père qui donne du pain. Abraham prit du pain. Et une outre d'eau, et les donna à Agar. Alors ici, c'est l'eau. C'est pour un enfant, c'est le pain et l'eau. Puis il mit l'enfant sur son épaule et la renvoya. Il s'enfuit errer dans le désert de Beersabée quand l'eau de l'outre fut épuisée. Vous voyez, errer, hein? Elle s'enfuit errer. Elle ne sait pas où elle va. Elle est complètement dépaysée, errante. C'est la brisure, ça montre combien elle est brisée. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous un des buissons. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis, à la distance d'une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Alors, vraiment, l'agonie, hein, c'est une espèce d'agonie qui est dans le cœur de la mère et dans le cœur de l'enfant. Ça doit aller jusque-là. Après cette errance dans le désert, sans savoir, elle n'a pas de guide. Elle n'a personne pour la guider. Abraham la renvoie. Dieu entendit la voix du garçon. Pardon. Elle s'assit donc vis-à-vis et il se mit à élever la voix et à pleurer. Dieu entendit la voix du garçon et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. Il lui dit, « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains pas. » Alors, relevez aussi, hein, « Ne crains pas », puisque c'est un leitmotiv de toute l'Écriture. Hein, « Ne crains pas. » Et chaque fois, il faut regarder justement les particularités de cette crainte qui doit être dépassée. « Ne crains pas », ça veut dire « dépasse ta peur, dépasse ta crainte, dépasse ton angoisse ». Et donc c'est intéressant de voir chaque fois le motif qui nous permet de dépasser cette crainte. « Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix du garçon. » Alors là, c'est Dieu qui entend la voix du garçon. Alors je crois qu'on peut dire que c'est la première fois dans l'Écriture où on voit cette manière particulière de Dieu qui entend la voix de l'enfant quand la mère ne veut plus l'entendre. La mère souffre de trop. Elle a une trop grande crainte de souffrir. Elle a déjà souffert. Alors elle s'éloigne pour ne pas entendre la voix de l'enfant. En tant que mère, elle aurait dû rester tout près. Une véritable mère ne permet pas que l'enfant agonise seul. Mais la servante n'arrive pas à être totalement mère. Elle veut moins souffrir. Alors c'est au moment où la mère n'a pas la force de la miséricorde maternelle jusqu'au bout. C'est au moment où la mère se replie trop sur elle-même. Il y a un repliement aussi, là, des deux côtés. Ces deux mères, on voit les deux repliements tout à fait différents. C'est au ce moment-là où Dieu entend la voix de l'enfant. Alors je crois qu'on peut dire, c'est pas que, pour essayer de comprendre ce que c'est que le paraclet, puisque cette expression de Saint Jean est tellement difficile à comprendre et tellement importante. Là, ce qui est très curieux, c'est que par le mot, vous n'allez pas loin, puisque c'est une expression qui n'existe pas dans l'Ancien Testament. Alors évidemment, à ce moment-là, on est court au point de vue philologique. Quand vous êtes court au point de vue philologique, plongez-vous dans la réalité et voir ce que ça signifie. Que signifie paraclet ? Dieu qui entend. Parce que quand vous définissez, vous savez bien, défenseur, avocat, c'est des attitudes secondaires, c'est pas premier. C'est parce qu'on entend la misère qu'on devient défenseur, qu'on devient avocat. Mais il y a une attitude antérieure, c'est pour ça que le mot paraclet, quasi intraduisible. Presque mieux employer paraclet. En expliquant. Et je crois qu'on peut dire qu'à travers toute l'Écriture, c'est pas étonnant, si l'Esprit Saint est l'auteur principal de l'Écriture, nécessairement, le mystère de l'Esprit Saint doit être révélé à travers toute l'Écriture. Mais à certains moments, on doit pouvoir le saisir d'une manière beaucoup plus directe. Et je crois que c'est toujours au moment des situations limites, au moment où on est en présence d'une situation où l'homme ne peut plus rien faire, l'enfant est condamné à mourir. La situation limite de l'enfant, c'est quand il agonise dans le désert, n'ayant plus d'eau pour boire. C'est vraiment la situation limite de l'enfant. Et c'est curieux que là nous saisissons tout de suite quelque chose de très particulier, de l'alliance de Dieu avec l'homme dans une situation limite. C'est-à-dire quand le cœur de l'homme est aux abois, quand le cœur de l'homme n'en peut plus, quand il agonise. Alors là on saisit une situation limite, c'est extraordinaire. Et je crois que c'est pour ça qu'on peut dire que c'est le premier moment où le mystère, comprenez bien, ce n'est pas la révélation du paraclet, celui que Saint, dont Saint Jean parle, mais c'est l'annonce d'un secours divin en face de la situation limite de l'homme et d'un don particulier de Dieu quand l'homme est dans cette situation ultime. Il se mit à élever la voix et à pleurer. Et la mère avait dit, « Je ne veux pas voir mourir l'enfant. » Donc il est abandonné. C'est la situation limite de l'enfant qui agonise. Il n'a même plus sa mère. Dieu entendit la voix du garçon et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix du garçon là où il est. » Là où il est. Hein. Petit reproche à la mère. La mère n'est pas là, elle n'est pas stabat au pied de la croix. Hein. Cette mère est loin, c'est net ça. Car Dieu a entendu la voix du garçon là où il est. Debout. Relève le garçon et tiens-le ferme en ta main. Mais le mystère de la compassion. Ça va avec le paraclet, ça. C'est à ces moments-là où on est en situation limite. Il y a une situation limite, là. Mais une situation limite négative par rapport à la mère qui ne peut pas supporter et qui n'arrive pas à supporter et qui alors se replie sur elle-même. Debout, relève le garçon et tiens-le ferme en ta main, car de lui je ferai une grande nation. La bénédiction de Dieu est sur lui. Et Agar oublie ça. Elle désespère. Elle a oublié la promesse. Et la promesse est redonnée là. Et Dieu redonne courage. Et Dieu redonne force pour continuer la route. C'est très beau quand vous mettez ça en parallèle, vous voyez, avec le grand mystère de la compassion, pour essayer de comprendre du reste. Marie aussi est servante. Elle le dit, je suis la servante du Seigneur. Elle est mère. Servante. La maternité divine va impliquer les deux, maternité de la femme libre et de celle qui accepte librement d'être petite esclave d'amour. Alors la force qui lui manque et que Dieu veut lui donner, debout, relève le garçon et tiens-le ferme en ta main. C'est donc elle qui doit l'affermir. S'il est dans cet état-là, c'est parce qu'elle n'était pas là. Car de lui je ferai une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'autre d'eau et fit boire le garçon. Alors ça aussi c'est très curieux. Dieu lui ouvrit les yeux. Comme si la tristesse avait empêché Agar de voir. Alors, je crois que c'est pour nous faire comprendre comment une tristesse qui est vécue d'une manière purement humaine, si légitime que soit cette tristesse, c'est tout à fait légitime la tristesse d'Agar. Hein? Elle est tout à fait humaine, elle a sa grandeur, elle a ses limites, elle a sa faiblesse. Agar n'arrive pas à accepter la souffrance jusqu'au bout. Mais il y a quand même quelque chose de grand. Une femme qui souffre, une mère qui souffre. Mais cette souffrance n'étant pas acceptée pleinement et totalement, elle aveugle. Une souffrance aveugle. La souffrance de Marie Magdala. La souffrance de Marie Magdala aveugle Marie Magdala, toujours. Parce que la souffrance, quand elle est vécue d'une façon trop humaine, risque d'être trop passionnelle. C'est l'affectivité passionnelle qui passe devant et qui l'emporte et qui alors rend aveugle. L'intelligence ne peut plus, elle est comme éteinte par la souffrance. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Ce n'est pas Dieu qui a fait soudainement un puits d'eau, non, c'est elle qui ne l'a pas vu, à cause de sa souffrance. Et ça, il faut bien le reconnaître, hein, nous sommes toujours un peu comme ça. Quand nous souffrons, forcément, la souffrance nous replie sur nous. Quand vous aviez espéré telle chose, hein, et puis que pour une raison ou pour une autre, on vous dit non. vous avez une petite tristesse, une petite souffrance, vous repliez sur vous. Et si vous ne faites pas grande attention, vous perdez à ce moment-là le sens de la réalité. Vous ne voyez plus. Vous êtes trop affligé. Vous pleurez intérieurement. Mais quand il est hagard, même extérieurement. Alors Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Dieu fut avec le garçon et il grandit. Ça, c'est très beau. Dieu est avec l'enfant. Le petit garçon, ça, c'est très net. Il est tout jeune. Dieu fut avec le garçon, puisque on a pu le mettre sur les bras de sa mère. Et il grandit. Il habita dans le désert et fut tireur d'arc. Ça, on voit très bien. Tireur d'arc, c'était déjà annoncé avant. Petit jeu de mots qui arrive, ça, c'est un petit souvenir. Tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. L'égyptienne Agar, il faut bien. Alors ça c'est l'Égypte. L'Égypte qui est le pays rival, qui par Agar, du moins qui par Agar et Ismaël, est lié. C'est un pays rival et un pays ami. C'est curieux. Toujours la même chose qu'on retrouve. Et qu'on retrouve ici, alors, à la source. Je crois que c'est important de souligner ici la fidélité de la bénédiction de Dieu. D'Abraham, elle se prolonge dans le Fils. Alors, il grandit. C'est... Là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de passage dans l'Écriture, n'est-ce pas, où on montre cette protection de Dieu avec l'enfant. Il y a évidemment les mystères de la jeunesse de Jean-Baptiste, de Jésus. Les mystères aussi de Moïse. Mais le contexte est tout à fait différent. Ici, il grandit au désert. C'est Jean-Baptiste. Il habita dans le désert et fut tireur d'arc. La différence, Jean-Baptiste n'a pas beaucoup été tireur d'arc. Mais il habitait au désert et il se contentait de prendre des racines comme nourriture. Tandis que lui, Ismaël, c'est pas du tout le même genre d'homme. Alors il aime mieux avoir un peu de chasse. On voit très bien. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Ce sont les grandes traditions, vous voyez. On va pas retourner, non. On retourne vers l'Égypte. Là, on indique ça simplement. Pas plus. On ne dit rien après. Mais on montre qu'il y a là une bénédiction de Dieu mystérieuse qui demeure. Bénédiction mystérieuse de Dieu à l'égard d'Ismaël. Alors notez aussi pour vos fiches, vous savez bien qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir, c'est le tireur d'arc. Et dans l'Écriture, c'est intéressant d'avoir le tireur d'arc. Parce que vous le retrouvez dans l'Apocalypse. C'est pour ça que je vous le souligne. Le cheval blanc. Tireur d'arc. Il a l'arc. Alors c'est intéressant, le symbolisme de l'arc. Ça, c'est à découvrir progressivement. Mais il y a un symbolisme. Ça, j'en suis sûr qu'il y a un symbolisme. Qui est quelque chose d'assez particulier. Alors nous avons maintenant quelque chose de tout à fait différent. On laisse tomber Ismaël, c'était terminé. Et nous revenons à Isaac. Nous revenons à Isaac, c'est-à-dire nous revenons à Abraham. En réalité, c'est Abraham, c'est l'histoire d'Abraham, la blessure qu'Abraham a dû connaître. Il ne faut pas l'oublier, ça fait partie des épreuves d'Abraham, ça. Une grande épreuve d'abandonner son fils. c'est le fils de la servante, mais c'est son fils de l'abandonner à cause de Sarah. Il y a sûrement beaucoup de choses à dire là-dessus par rapport à la destinée d'Israël. Ça, j'en suis sûr. Il y a sûrement quelque chose là à saisir. Ça n'aurait pas été du tout la même chose, voyez, si Sarah avait été magnanime. Là, il y a eu tout de suite, du côté de la mère, le père est magnanime. Vous allez me dire, c'est facile, c'est lui la source de la bénédiction. On est magnanime quand on est rempli de bénédiction, ça c'est sûr. Ce qui est difficile, c'est d'être magnanime au moment des vaches maigres. Ça, c'est le plus difficile. Au moment des vaches grasses, ça va très bien, on distribue à tout le monde. Mais au moment des vaches maigres, c'est beaucoup plus difficile d'être magnanime. C'est toujours au moment de l'échec que vous découvrez si quelqu'un est magnanime. Toujours. C'est toujours à ces moments-là. Et c'est à ce moment-là qu'on voit, vous voyez, Nicodème, Joseph d'Arimathie. Au moment où Jésus est mort, il se dévoile. Là, on découvre la magnanimité de Nicodème et Joseph d'Arimathie. Sarah, c'est l'inverse. Quand elle est stérile, elle est héroïque. Quand elle est féconde, elle ne l'est plus. Elle est curieuse. Il y a quelque chose de très significatif. Il y a quelque chose d'intéressant à voir. Quelqu'un me disait ça. C'est un Israélite qui me disait ça. C'est un rabbin très très connu, très intelligent. Il dit, quand Israël est aux abois, il est héroïque. Quand il triomphe, il est terrible. Et ça m'a toujours beaucoup, quand on regarde, c'est intéressant, c'est un jugement qu'il portait de lui-même, hein. Il parlait de la situation actuelle, tout ce qui s'était vécu en Israël. Et il disait lui-même, quand Israël est aux abois, quand Israël souffre, il est héroïque. Et quand Israël réussit trop bien, alors à ce moment-là, il n'arrive plus. C'est très difficile d'arriver à être magnanime au moment de la réussite. C'est le vieux philosophe grec Aristote qui dit que la vertu de magnanimité, c'est de dépasser la gloire. Il a bien saisi ça, hein. Être magnanime, c'est dépasser la gloire. C'est-à-dire comprendre que la gloire, c'est quelque chose de relatif. Et qu'on doit chercher quelque chose d'autre. Sarah, elle est pleine de gloire, hein. Le fils est la gloire de la mère. Quand il se porte bien, qu'il est gentil, qu'il est sevré, c'est la mère qui se voit en lui, n'est-ce pas? C'est mon fils, hein. Vous voyez bien comme il est bien. Alors elle se glorifie. Il n'arrive pas à dépasser cette gloire. Alors on retrouve cette petitesse de la jalousie. Tandis qu'au contraire, quand on arrive à dépasser la gloire, on est magnanime. Et le philosophe souligne qu'on ne peut être magnanime pour dépasser la gloire que grâce à la contemplation. C'est la contemplation seule qui maintient la magnanimité au moment de la gloire. Si on n'est pas contemplatif, c'est impossible. Mais être religieux ne suffit pas. Le point de vue religieux ne suffit pas. L'adoration ne suffit pas. Pour arriver à être magnanime, il faut ce caractère de dépassement. Je veux dire, cette magnanimité qui implique ce dépassement par rapport à la gloire réclame un grand élan contemplatif. Et dépasser d'une tête ce qui est habituel. C'est ça la contemplation. C'est ne pas regarder le résultat immédiat. Le contemplatif, c'est celui qui accepte de ne pas avoir de résultat immédiat. Il a misé sur quelque chose de plus grand. Il mise sur Dieu. Et il veut uniquement s'en remettre à Dieu. Parce que c'est ça l'attitude contemplative fondamentale. Alors, si vous quittez cette attitude contemplative, nécessairement vous regardez les résultats immédiats. Et en regardant les résultats immédiats, vous perdez toute magnanimité. Vous perdez toute patience. Patient et magnanime. C'est d'avoir une possibilité d'un regard plus lointain. D'un regard qui va plus loin. Et c'est pour ça que c'est si intéressant et si important ce petit passage. Alors voyons maintenant, Abraham, un autre passage qui est aussi très important. Or, en ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, le chef de son armée, dit à Abraham, « Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Maintenant donc, jure-moi ici par Dieu. » Que tu ne tromperas ni moi, ni ma lignée, ni ma postérité, mais qu'envers moi et envers le pays où tu résides, tu témoigneras la même fidélité que j'ai témoigné envers toi. Abraham dit, je le jure. Alors ici on va montrer, voyez, il ne faut pas oublier, hein, c'est qu'on veut nous montrer la grandeur d'Abraham. Hein. Toute cette révélation, c'est pour nous montrer la grandeur du patriarche. Alors, on nous a montré la fidélité d'Abraham à l'égard de Dieu. C'est vrai. On nous a montré la bénédiction de Dieu sur Abraham, au-delà de cette petite division, cette petite séparation, cette petite opposition de Sarah. Ici, on veut nous montrer la fidélité d'Abraham à l'égard de Abimelech. Accompagné de Picol, le chef de son armée. Donc Abimelech, c'est un des rois qui sont autour. Et alors, on voit le contrat dans la fidélité. Donc on pourrait dire que c'est l'attitude de fidélité à l'intérieur de la justice, à l'intérieur de ce que représentent les rapports humains avec ceux qui sont proches de nous. Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau qu'avaient pris de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech dit, « J'ignore qui a fait cette chose-là. Toi-même, tu ne m'en as pas informé. Et moi-même, je n'en ai entendu parler qu'aujourd'hui. » Abraham prit du petit et du gros bétail, le donna Abimelech et tous deux conclurent une alliance. Oui, la grandeur d'âme d'Abraham en face de ces petites difficultés qui existent toujours, hein, les petites difficultés de vie commune avec le bétail, c'est toujours comme ça, non, les petites difficultés de vie commune avec le bétail, parce que chacun va de son côté, a besoin d'avoir un espace vital suffisant, l'espace vital n'est pas suffisant, l'un se couche plus tôt, l'autre se couche plus tard, l'un fait du bruit, l'autre n'en fait pas, et alors l'un ronfle et l'autre ne ronfle pas, alors tout ça c'est le bétail, ça, vous comprenez, c'est toujours les difficultés qui existent autour du puits, toutes les difficultés de la vie commune c'est comme ça, ça ne vole pas très haut. On est tout à fait d'accord, on est tout à fait d'accord quand on est dans le ciel. Ça ne va pas très bien, ça va très bien. Mais quand on est mêlé à ça, on voit les serviteurs, j'ignore qui a fait cette chose-là. Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau qu'avaient pris de force les serviteurs d'Abimelech. On voit très bien ce qui se passe. Un puits d'eau, c'est important, les puits. Ça aussi, une fiche sur les puits. C'est très important, les puits. Les puits, c'est très important à travers l'Écriture. Et il y a tout un grand thème qu'on doit retrouver. Les puits. C'était ça, le puits d'eau. On comprend très bien, dans un désert, ça joue un rôle très important. C'est là où il y a la possibilité de la fécondité, c'est là la possibilité de la vie. Alors on voit très bien cette espèce de petite querelle qui a eu lieu là. Alors, Abimelech, j'ignore qui a fait cette chose-là. Ça, c'est la grandeur d'Abimelech. Toi-même, tu ne m'en as pas informé. Et moi-même, je n'en ai entendu parler qu'aujourd'hui. C'est suffisant. Il est vrai, Abraham sera vrai. Abraham prit du petit du gros bétail, le donna à Abimelech, et tous deux conclurent une alliance. Au-dessus des petites difficultés, vous voyez, l'acte de charité fraternelle que nous faisons au-dessus des ronflements du voisin et des difficultés qui existent. C'est un petit acte de charité fraternelle qu'on voit faire. Et c'est ça, on conclut une alliance. La charité fraternelle, c'est conclure une alliance. On vit dans une alliance. Il faut qu'il soit beaucoup de grandeur d'âme pour vivre de la charité fraternelle. Et la vie commune est faite pour que la grandeur d'âme dans la charité fraternelle existe. Et plus la vie commune est lourde, et elle est lourde en fonction du nombre, plus Dieu exige quelque chose d'héroïque de la charité fraternelle. Vous voyez ? Prenons le bon côté des choses et pas le mauvais. N'est-ce pas ? Quand on dit « Ah, on est trop nombreux, c'est impossible. » Si on rêve d'être 10, ce serait tellement plus agréable. C'est évident, ce serait plus agréable. Mais on n'est pas 10, et ça, c'est pas nous. C'est pas nous qui faisons ça. C'est pas nous qui comptons, c'est pas nous qui nombrons. C'est Dieu qui nombre. Alors, si Dieu fait ça, c'est pourquoi ? C'est pour un caractère plus héroïque de l'exercice de la charité fraternelle. C'est parce que Dieu veut qu'on aille plus loin dans le caractère héroïque de la charité fraternelle. Conclure des alliances, et une alliance divine. Comme Abraham mettait à part 7 agnels du troupeau, Abimelech dit à Abraham, que font là ces 7 agnels que tu as mis à part. Il dit, ces 7 agnels, tu les prendras de ma main, afin que ce soit pour moi un témoignage que j'ai creusé ce puits. Voilà pourquoi on a appelé ce puits Bertsabé, car là, tous deux avaient prêté serment. Quand ils eurent conclu alliance à Bertsabé, Abimelech partit avec Picol, le chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. C'est important, vous voyez, parce que c'est montrer l'alliance avec les Philistins. Alors qu'après, on va voir les divisions. Abraham est suffisamment grand pour s'allier ceux qui pourraient devenir des ennemis. La grandeur, vous voyez, je crois que c'est très fort, la grandeur du cœur d'Abraham, la magnanimité du cœur d'Abraham. Abraham planta un tamari à Bertsabé. Il y invoqua le nom d'Yahvé, Dieu d'éternité. Abraham résida de longs jours au pays des Philistins. Donc, une alliance qui dure, une fidélité, une grande fidélité, la grandeur d'âme d'Abraham. Alors maintenant, nous allons voir, vous voyez, le mouvement qui est très très beau, du reste, c'est grand. Creuser, comment Dieu creuse cette fidélité, de temps en temps c'est du côté de Dieu, de temps en temps c'est du côté des hommes. La fidélité à l'égard de Dieu ne peut croître que dans la mesure où la fidélité croît dans la charité fraternelle à l'égard des hommes. Et dans la mesure où la fidélité à l'égard des hommes, à l'égard de notre prochain, grandit, alors il y a une fidélité plus profonde à l'égard de Dieu. On ne peut pas grandir dans l'amour de Dieu sans grandir dans l'amour sans grandir dans la charité fraternelle. Et chaque fois qu'on grandit dans la charité fraternelle, on grandit à l'égard de Dieu. Ce que nous voyons dans les mystères de Marie, nous le voyons d'abord d'une manière préfigurative dans Abraham. Alors ici, nous allons avoir Dieu qui creuse la fidélité dans le cœur d'Abraham, et ça va très loin. Or, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Chaque fois que Dieu nous met à l'épreuve, c'est pour voir jusqu'où va notre fidélité. Ou plus exactement, c'est pour que notre fidélité s'enracine plus loin. Donc les jours d'épreuve, dites-vous ça, les jours d'épreuve, les jours de brouillard intérieur, de froid, dites-vous bien, Dieu met ça pour voir jusqu'où va aller ma fidélité. Ma fidélité doit aller jusque-là. Quand tout va bien, que voulez-vous, la fidélité c'est facile, quoi. C'est pas au moment où tout va bien qu'on peut mesurer la fidélité de quelqu'un. C'est quand on est crucifié. C'est C'est quand on est vraiment blessé. Dieu lui dit, Abraham, celui-ci dit, me voici. Alors ça c'est rapide, hein. C'est le contact. C'est vrai, on voit très bien la familiarité. C'est très familier ça. C'est immédiat. Hein. Vous voyez l'oraison du matin. Hein. Abraham, me voici, ça y est, tout de suite. Tandis que d'habitude, ça met un peu plus longtemps. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria. Là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est direct, hein? Et Abraham se tait. Lui qui est si habitué à discuter. Il peut discuter quand il s'agit de Lot, mais pas par rapport à lui-même. C'est toujours comme ça. On peut discuter par rapport aux autres. On peut demander des signes de Dieu par rapport aux autres. Mais quand il s'agit de nous, il faut rester dans cette attitude de don total. Me voici. Tout est commandé par ça. Hein. Il se présente en face de Dieu et en face de Dieu, il accepte tout. Et c'est quelque chose d'assez affolant ce que Dieu demande. Hein. C'est intéressant. Regardez les exégèses de ce parti de chapitre 22. On ne sait pas trop comment expliquer ça. C'est vrai, si je me place d'un point de vue moral, c'est incompréhensible. Mais heureusement que Dieu n'est jamais celui qui parle au point de vue moral. C'est l'homme qui parle moral. Dieu ne parle jamais moral. Dieu parle toujours théologal. C'est pas étonnant? Puisqu'il est celui qui nous donne une lumière d'en haut. Alors quand on se place dans cette perspective-là, tout est tout à fait différent. C'est Dieu qui veut vraiment sonder le cœur d'Abraham. Alors il le prend dans le point le plus vulnérable. C'est comme ça que Dieu sonde notre cœur. Dieu sait quelle est la vulnérabilité la plus profonde qui est en nous. Nous ne la savons pas tout le temps. Nous y croyons à tel point, à ce point-là. Nous ne savons pas toujours. Quelle est notre vulnérabilité la plus grande? Notre vulnérabilité la plus grande, c'est là où nous aimons le plus. Pour Abraham, c'est net, c'est son amour pour le petit Isaac. Il l'aime doublement, puisque Ismaël est parti. Il a perdu Ismaël. Il est vraiment celui là, qui n'est plus le père pour Ismaël. Il l'a perdu, Dieu l'a pris. Alors, il a un double amour pour Isaac. Tout son amour porte sur Isaac. Il fallait que tout son amour porte sur Isaac. Et voilà que Dieu va regarder cet amour d'Abraham pour son fils bien-aimé. Prends ton fils, ton unique, que tu aimes, Dieu le sait, Isaac, et va-t'en au pays de Moïra. Cette parole de Dieu, ce commandement de Dieu, semble en contradiction avec tout ce qui est avant. C'est une espèce de contradiction apparente. Mais pour la raison d'Abraham, pour l'intelligence d'Abraham, c'est une espèce de contradiction. Abraham pourrait dire, mais quoi, je ne comprends pas. Nous aurions été à la place d'Abraham, c'est ce qu'on aurait dit. Je ne comprends pas. Vous avez dit ça, maintenant vous dites l'inverse. Hein, les permissions de Dieu que nous transformons en droit. Hein, vous savez bien, à cause de l'orgueil qui est en nous. Abraham n'a pas d'orgueil à ce point de vue-là. Il est magnanime et il est pauvre en face de Dieu. Il est magnanime à l'égard des hommes. Et pauvre à l'égard de Dieu. Et pauvre à l'égard de Dieu, c'est justement, il reconnaît qu'il n'a rien. Abraham se leva de grand matin, sella son âne, prit avec lui ses deux serviteurs et Isaac son fils. Il fendit le bois de l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu de loin. Ah, il n'est pas du tout comme Agar, il voit très clair encore, malgré sa souffrance. Mais c'est une souffrance entièrement portée par l'amour. Levant les yeux, aperçut le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici, vous, avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois de l'Holocauste et le mit sur Isaac, son fils. Il prit en sa main le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à Abraham, son père, « Mon père !» Abraham dit, « Me voici, mon fils. » Isaac dit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau? Où est le mouton ?» dit Père Hostie. « Où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham dit, « Dieu se pourvoira lui-même du mouton pour l'Holocauste, mon fils. » Ils s'en allèrent tous deux ensemble. Nous reviendrons parce que c'est un grand lieu et sûrement que c'est un des lieux qui nous fait comprendre le mieux le mystère de la foi contemplative.